L'actualité des Alpes du Sud et ce tragique accident du ULM ce lundi à Saint-André-les-Alpes.
Un mort est à déplorer suite à ce crash d'un ULM. Il s'agit d'un homme de 65 ans. Un autre de 61 ans a été grièvement blessé et a dû être héliporté à Nice.
Un projet de maison de naissance en gestation dans les Hautes-Alpes.
Une association L'Écrin vient d'être créée pour que cette structure entièrement gérée par des sages-femmes et des professionnels de la périnatalité voit le jour.
Opération zéro déchet aux Ors.
Dans le cadre de la deuxième édition du programme national de réduction des déchets en montagne, la station alpine lance mardi une nouvelle matinée de ramassage en collaboration avec l'association Mountain Riders.
Et puis en sport, ce sont les grands mouvements qui ont débuté chez les Diables Rouges.
Un mercato aux airs de Slovaquie avec notamment l'arrivée de Jakub Burzik et le départ de deux de ses compatriotes. En parallèle du Letton Kristaps Basevic, c'est également la formation briançonnaise qui est valorisée avec quatre jeunes qui poursuivent leur apprentissage du côté de René Froger. La météo, Thierry.
Et météo avec quelques nuages ce matin, quelques rayons de soleil, mais dans l'ensemble, la pluie va arriver sur nos deux départements. Côté température, c'est toujours chaud. Elle s'échelonne pour les maxis de 29 à 34 degrés. Un mort suite au crash d'un ULM à Saint-André-les-Alpes, c'était ce lundi vers 15h.
Il s'agit d'un homme de 65 ans, un autre de 61 ans a été grièvement blessé. Il a été pris en charge par la CRS des Alpes et a été héliporté à Nice. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Un homme en arrêt cardio-respiratoire après une chute en bordure de la Durance à Briançon.
Les secours ont été alertés vers 11h50 ce lundi matin, même si les circonstances restent pour l'heure à déterminer. Il s'agirait d'un SDF d'une cinquantaine d'années qui serait tombé d'un mur derrière le magasin Leclerc où il dormait. La victime a été transportée sur le centre hospitalier de la cité Vauban.
Et puis ce grave accident de la circulation à Castellane ce lundi.
Il s'est produit à 14h41 sur la RD95 entre une voiture et une moto. Le motard, un homme de 60 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté par le Dragon 06, lui aussi du côté de l'hôpital Pasteur à Nice. Le conducteur de la voiture, quant à lui, est indemne.
Et puis dans l'actualité, cette nouvelle affaire de piqûre dans les Hautes-Alpes.
Un homme de 32 ans a été placé en garde à vue, puis relâché selon nos informations confirmées par le parquet de Gap. Une jeune femme a déposé plainte ce week-end. Elle dit avoir été victime d'une piqûre dans un établissement nocturne gapensé, sans avoir présenté pour autant des signes de malaise. Placé en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi, le gapensé a nié. L'enquête n'ayant pas permis d'établir pour l'instant la réalité de l'agression et d'imputer les faits aux mis en cause, la garde à vue a été levée, indique sur Alpe 1 le procureur Florent Crouy. L'enquête pour violence volontaire avec armes et administration de substances nuisibles se poursuit en préliminaire. Des prélèvements ont été effectués sur la victime. Les analyses sont actuellement en cours.
Et dans le même temps, un autre dossier de piqûre a été, quant à lui, classé sans suite malgré la présence de substances retrouvées chez la victime.
Les faits ont été commis le 5 mai dernier à Gap. Une femme dit avoir été victime d'un blackout après une soirée dans un pub rue Carnot et s'être réveillée dans son appartement en désordre. Elle présentait une piqûre sur la fesse. Des analyses toxicologiques ont été effectuées. Des traces d'hypnotiques, d'antidépresseurs et de GHB ont été retrouvées. Des témoins ont été entendus dans cette affaire, notamment le gérant du bar, mais aucun élément suspect n'est ressorti. L'établissement ne possédait pas non plus de vidéosurveillance. En l'absence d'auteur et de lieu identifié, l'enquête a donc été classée sans suite.
Et puis Christophe, dans le reste de l'actualité, ce projet de maison de naissance en gestation dans les Hautes-Alpes.
Une association L'Écrin vient d'être créée pour que cette structure entièrement gérée par des sages-femmes et des professionnels de la périnatalité comme les doulas voit le jour, car de plus en plus de femmes en France demandent des accouchements physiologiques, c'est-à-dire sans médication. Une alternative soutenue par le gouvernement. Si 8 maisons de naissance existent dans l'Hexagone, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a lancé l'ouverture de 12 nouvelles fin 2022, une envie de retourner au naturel chez ces mamans qui seront accompagnées avant, pendant et après la grossesse par leur sage-femme, le tout avec le moins de risques possible puisque cette maison de naissance s'implanterait sur Gap près de la maternité. Sophie Le Rebourg est sage-femme libérale.
C'est quand même une structure qui va être gérée de façon autonome par des sages-femmes. Simplement, l'hôpital peut nous louer des locaux à l'intérieur même de la structure de l'hôpital pour pouvoir transférer rapidement en cas de besoin. Le ministère de la Santé a décidé de pérenniser ce système et d'en ouvrir d'autres parce que les études ont bien montré qu'il y avait moins de césariennes, moins d'instrumentation dans ces lieux-là. En hôpital, on accouche avec une sage-femme qu'on ne connaît pas et on doit créer de façon très rapide un lien de confiance et d'intimité Alors qu'en maison de naissance, on accouche avec la sage-femme qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a créé un lien de confiance. On peut sortir 2 heures après la naissance, hein, entre 2 heures et 24 heures, hein, selon comment on se sent. Et cette sage-femme va venir nous voir pendant une semaine, tous les jours, à la maison pour vérifier que je vais bien et que mon petit bébé va bien.
Une rencontre va avoir lieu avec la direction du CHICAS de Gap. Le dossier sera ensuite soumis à l'Agence régionale de santé. L'association appelle la population à prendre part au projet pour le soutenir et faire en sorte qu'il pousse ses premiers cris d'ici 2 ans.
La revitalisation de la Bâtie-Neuve avec sa population.
Absolument, lauréate du programme Petite Ville de demain, la commune présentera ce mercredi les principaux projets d'aménagement futur du centre-bourg lors d'une réunion de concertation publique. Pour rappel, il s'agit d'un programme national de soutien pour les villes de moins de 20 000 habitants autour de 3 priorités, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Issue d'une année d'études, la construction de la maison de santé ou le devenir de la place des écoles seront notamment évoqués auprès des administrés qui pourront dans le même temps exprimer leur propre vision, leur regard et leurs besoins. Rendez-vous donc à 18h30 à la salle des fêtes communales.
Et puis attention, hein, cette semaine, des travaux nocturnes sur la RN 94 à Embrun.
Pour procéder à la réfection de la chaussée, la direction interdépartementale des routes méditerranéennes a décidé de totalement interrompre la circulation sur la déviation RN 94 embrunaise de 21h à 6h à compter d'hier, et ça jusqu'à ce vendredi. Les usagers sont ainsi invités à emprunter la déviation locale par l'ancienne route nationale dans la traversée d'Embrun.
Direction maintenant les Ors, où on lance une opération zéro déchet.
Dans le cadre de la 2e édition du programme national de réduction des déchets en montagne, la station alpine lance ce mardi une nouvelle matinée de ramassage en collaboration avec l'association Mountain Riders, une association d'éducation à la transition écologique qui permet notamment à donner du sens avec des guides ou des affiches et pas seulement partir en montagne avec un sac poubelle, tout simplement. Entre 40 et 50 participants se sont donc inscrits, dont une dizaine d'enfants de ski club Les Orcs-Crévaux-en-Brun pour ramasser un maximum de déchets depuis le front de neige 1650 dès 8h30, entre 300 et 400 kilos qui pourront être triés par type pour ainsi connaître les catégories qu'on retrouve le plus en montagne. Cette action s'inscrit dans la politique environnementale des Orcs pour notamment sensibiliser les touristes qui sont essentiels à son développement. Marie Diarrojo, animatrice qualité, sécurité et environnement pour la station.
Ces zones importantes, ça va être les zones qui ont été fréquentées par les vacanciers, donc où on peut trouver du déchet. Des zones également où on est susceptible de trouver des déchets de nos activités, comme des zones où on a réalisé des travaux sur les années précédentes. Ce sera le cas, par exemple, pour la zone de Prébois. Et enfin, ça va être les lignes des télésièges. On sait que sous les télésièges, malheureusement, on retrouve pas mal de petits déchets. C'est un sacré challenge et en même temps, l'attrait pour la montagne, il existe, il est présent, les gens viennent en montagne. Nous, notre rôle, c'est au contraire de pouvoir les canaliser, les sensibiliser, de mettre certaines zones, ce qu'on appelle en défense, c'est-à-dire d'éviter la présence humaine quand celle-ci, elle peut être nuisible à l'environnement. Et à l'inverse, en emmenant les gens en montagne, de les sensibiliser à l'importance de la préservation de l'environnement.
Le prochain grand rendez-vous écologique des Ors aura lieu du 1er au 5 août avec le festival Game of Trees, une façon de mettre sur le devant de la scène d'une manière positive le développement durable en montagne. Les vacanciers pourront ainsi profiter de concerts avec notamment Benabar en tête d'affiche et des moments de sensibilisation par le biais de conférences, activités nature ou des randonnées à thème.
Et on reste en montagne avec la 21e édition de la Nuit des Refuges ce samedi.
Soirée musicale, conférences, expositions, encore récits de secours en montagne. Les gardiens de refuge mettront les petits plats dans les grands. L'occasion aussi de lancer la saison estivale de façon festive. Puis entre le 7 juillet et le 25 août, plusieurs refuges proposeront des animations autour de l'environnement. Ces jeudis des refuges ont pour objectif de sensibiliser le public sur la fragilité du milieu montagnard, explique l'Agence de développement des Hautes-Alpes. Quant aux gourmands, ils ne sont pas oubliés. Pour la première fois, l'association des gardiens de refuge des Hautes-Alpes invitera durant l'été des restaurateurs en refuge grâce à l'opération Délissime.
Un grand photographe aux nuits photographiques de Pierre Vert, il s'agit de Jean-Marie Perrier.
Le photographe sera en effet le parrain de cette 14e édition, lui qui a été photographié les plus grands artistes des années 60 comme Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, François Hardy ou encore Mick Jagger dans les années 90. Il travaille aussi pour le magazine Elle, une exposition consacrée à l'œuvre de Jean-Marie Perrier avec notamment un focus sur ces fameuses années 60. Sera proposé du 1er juillet à la fin du mois de septembre dans les caves de la Fondation Carzou de Manosque. Plus de 80 photos seront visibles. Elles n'ont pas été choisies par hasard. Ce sont des images difficiles à recréer aujourd'hui qui ont été choisies, souligne Stéphane Kaussmann, le président des Nuits photographiques de Pierre Vert.
Moi qui fais beaucoup de photos de stars, aujourd'hui c'est difficile d'amener un Mick Jagger dans la rue comme ça sans parler à une dizaine d'agents, un attaché de presse et tout ça. Alors que à l'époque, dans les années 60, Jean-Marie Perrier se permettait d'emmener un peu tout le monde comme il voulait dans la rue et faire des photos comme ça. Comme si c'était deux potes. Voilà, c'est. On a privilégié le choix des photos sur ce genre d'image. On voit Claude François sur les Champs-Élysées ou à Las Vegas en pleine rue comme ça. Donc c'est des images qui seront aujourd'hui. Je me vois mal emmener un Brad Pitt comme ça, juste lui et moi sur les Champs pour faire une photo.
Lors des Nuits photographiques de Pierre Vert du 28 au 31 juillet, c'est toute l'œuvre de l'artiste qui sera passée en revue. Il sera présent pour aller à la rencontre du public, tout comme la cinquantaine de photographes qui fera le déplacement. Expositions dans une dizaine de lieux, rencontres, mais aussi ateliers sont programmés.
Digne-les-Bains aux couleurs olympiques, c'est ce mercredi.
La ville-préfecture des Alpes de Haute-Provence va célébrer la journée olympique et paralympique, une commune qui est labellisée Terre de Jeux 2024 et qui a été retenue comme centre de préparation aux Jeux de Paris pour le football et le cyclisme sur route ce mercredi. De nombreux ateliers seront proposés autour du handball, du football, du volleyball, paddle ou encore des parcours santé. Le rendez-vous est donné au plan d'eau des Ferrioles de 15h à 19h. Notez que le lendemain, ce sont 150 élèves des écoles dinoises qui se retrouveront sur trois sites pour une journée découverte des sports olympiques et paralympiques.
Alpes 1 Sport. Avec les Diables Rouges qui deviennent en quelque sorte une seconde maison pour le hockey slovaque.
Dans la droite lignée du mercato de la saison dernière, la formation briançonnaise continue de piocher dans le pays natal de son coach Daniel Sedlak pour compléter son effectif. Le défenseur de 25 ans Jakub Burzik est le dernier exemple de ce recrutement aux airs de Slovaquie. En rejoignant les Diables Rouges pour ce qui sera sa première expérience à l'étranger, les mouvements se font également dans le sens inverse avec les départs de deux autres Slovaques, l'attaquant de 32 ans Radovan Kut et le défenseur de 38 ans Slavomir Tomko. Outre la filière slovaque, le club alpin mise également sur sa formation et ce n'est pas moins de 4 joueurs qui ont décidé de poursuivre leur apprentissage du haut niveau à Briançon. Il s'agit donc de Bastien Kouloban, Nathan Fort Brock, son frère Lucas Fort Brack et Yonis Pene. Notez finalement que le Letton Kristaps Basevic se plaît dans les Hautes-Alpes depuis son arrivée fin 2021, venu remplacer Martin Landek. Le défenseur balte sera en effet de nouveau Briançon la saison prochaine.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.